La reine qui s'igit fut un diable et un ange. Elle enfanta 3 rois et 5 guerres civiles, fit bâtir des châteaux et ruiner des villes, fit bien de bonnes lois et de mauvais édits, souhaite-lui passant enfer et paradis. Pierre de l'Étoile.
Ans d'histoire. Parce qu'elle était étrangère et parce qu'elle était une femme dans un pays où elles étaient écartées du pouvoir, Catherine de Médicis fut un des personnages les plus calomniés de l'histoire. Épouse de Henri II, tuée sous ses yeux pendant un tournoi, et mère de 3 rois de France, François II, Charles IX et Henri III, elle a exercé pendant 30 ans la réalité du pouvoir, à l'époque où la France était déchirée par les guerres de religion. Essayant en vain de réconcilier les protestants et les catholiques, elle restera pourtant, pour la postérité, la responsable du massacre de la Saint-Barthélemy. Une tache de sang sur le destin tragique de cette Florentine, arrivée en France à l'âge de 14 ans, pour y épouser le deuxième fils de François Ier, le futur Henri II. C'était le 11 octobre 1533.
Et voici la suite de Catherine.
C'est une armée?
Nous aurons parmi nous une jolie bande de conspirateurs italiens. Remarquez ceux qui marchent en tête. À droite, voici le comte Gondi. On dit que Catherine ne peut rien faire sans son assentiment. Ses oncles l'ont placé sous sa garde. Je présume que voici Ruggieri. On m'a dit qu'il était l'astrologue de Catherine. Il paraît qu'elle est aussi superstitieuse qu'une fille de cuisine.
J'aperçois Sa Majesté et le Dauphin. Regardez, ils sont là. Madame, les voici.
Michel Perramore, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans une vie romancée de Catherine de Médicis, que vous venez de publier aux Presses de la Cité, vous rappelez que cette Italienne, qui a été une très grande reine de France, a été aussi la plus calomniée. Au début de votre livre, vous citez tous les surnoms qui lui ont été donnés, Poulinière royale, Madame Satan, Agrippine, Tenancière de bordel, Jézabel, la marchande florentine, l'empoisonneuse, enfin j'en passe. Pourquoi est-ce que, dès son arrivée en France, elle a été ainsi détestée?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une étrangère. Étrangère, à demi étrangère d'ailleurs, parce qu'elle était par sa mère d'origine auvergnate. D'autre part, elle n'était pas très belle. Donc, à une époque où on adorait les belles femmes, Brantôme en a assez parlé. Et ensuite, parce que elle était effacée. On ne la voyait à la cour que dans de rares circonstances, toujours réservée, toujours discrète. Et ça ne passait pas très mal.
Peut-être aussi parce qu'elle a vraiment régné. Bon, on sait qu'il n'y a pas de reine qui gouverne en France. Il y a des épouses d'un roi ou des mères de rois. Mais elle a vraiment exercé le pouvoir, puisque ses enfants qui ont régné tous étaient trop jeunes pour régner ou lui ont laissé le pouvoir. Donc elle a vraiment gouverné et on n'aimait pas trop ça en France.
Elle a été une gouvernante pour ses enfants et une médiatrice pour la France, je dirais. C'est-à-dire, ses enfants, effectivement, elle les a suivis d'un bout à l'autre de leur vie. Elle a toujours été là, près d'eux, elle les a guidés, mais sans faire vraiment office de reine de France. Elle était une gouvernante, en fait, c'est ça, je crois que c'est le terme qui convient.
Alors, cela dit, quand elle arrive en France en 1533, elle n'épouse que le fils cadet de François Ier, donc elle n'était pas destinée, personne ne pouvait imaginer à l'époque qu'elle devait régner, Michel Perramore.
À l'époque, non.
Pourquoi est-ce que d'abord on a arrangé ce mariage?
C'est un mariage arrangé, alors je ne vous dirai pas pourquoi. Je pense qu'il y avait des nécessités diplomatiques derrière tout ça. Mais c'est vraiment un mariage qui n'a pas fait grand bruit. Hein. Du fait donc de la personnalité de Catherine de Médicis, et de la personnalité également de son époux, le roi Henri II.
Tous les deux très jeunes, hein, je crois.
Tous les deux très jeunes.
Enfin, c'était.
Et je vous rappelle tout de même que son mari, Henri II, a été tué dans un tournoi assez sanglant, d'ailleurs, par le duc de Montmorency.
On y reviendra. Alors,
de Montgomery, pardon.
C'est un mariage arrangé. Je crois qu'elle était amoureuse de son mari,
très
le futur
amoureuse.
Henri II.
Très
lui,
amoureuse.
En revanche, pas du tout, parce qu'il faut quand même rappeler.
C'est tout un triste cire, d'ailleurs. Oui. Un personnage sombre, peu loquace, vraiment un peu. Un mauvais roi, en quelque sorte. Il n'avait aucun relief, aucune personnalité.
Et un mauvais mari, hein, il faut rappeler
un mauvais mari aussi,
que pendant 16 ans, elle a dû
accepter
la présence de Diane de Poitiers.
Diane de Poitiers, qui était une femme splendide, qui était en quelque sorte le contre-pied de Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis était laide. Enfin, pas, c'est pas un laideron, mais enfin, elle n'était pas très belle. Et Diane de Poitiers était en revanche une femme extraordinaire.
Et alors, qui
c'était grand amour.
Et qui avait 20 ans de plus que son amant.
Et
le 20 roi
ans
de France.
De plus que son, hein, que son amant.
C'était presque une mère pour lui.
C'était une mère, oui, on peut le dire. Mais surtout une amante extraordinaire.
Alors, il y a une mésentente aussi donc, entre Catherine de Médicis, qui aime son mari, le futur Henri II, mais c'est pas un amour partagé. Il y a une mésentente aussi qui tient au fait qu'elle devient dauphine, c'est-à-dire qu'elle est appelée à devenir reine de France le jour où le frère aîné de Henri II meurt. On l'a même d'ailleurs soupçonné d'avoir empoisonné son beau-frère. Enfin bon, peu importe. Mais
vous parlez de François II.
François, du fils aîné qui n'a jamais régné, du fils aîné de François Ier.
Ah, du fils aîné de François, oui,
qui est mort, qui s'appelait aussi François. Oui. Il est mort, donc Henri, son mari, deviendra roi de France, elle deviendra reine, mais alors, aux catastrophes, pendant les 10 premières années de leur mariage, Michel Peyramort, elle ne va pas avoir d'enfant.
Elle n'aura pas d'enfant. Elle n'aura pas d'enfant.
Et pourquoi
Pourquoi ? Parce que son mari n'était pas capable de lui donner des enfants. Ouais. Elle a montré par la suite qu'elle était fort capable d'engendrer.
Avec son mari, hein,
c'était avec son mari. Mais... Avec son mari, bien sûr. Oui.
Alors elle était très inquiète.
Elle était mère de trois rois et d'une reine, donc elle était capable d'engendrer.
Je crois qu'elle consultait beaucoup les astrologues, hein. Ça aussi, ça inquiétait. Elle était venue avec son astrologue, elle était venue avec l'Italien.
Il y a un phénomène assez curieux, l'astrologue en question s'appelait Ruggieri. Et un phénomène assez curieux, c'est qu'elle avait une préscience des destinées de sa famille. Ruggieri lui a montré un jour un miroir tournant en lui disant « Voilà, vous allez assister au déroulement de la vie de votre famille. » Et elle a vu apparaître dans ce miroir, alors il faut faire la part de la vérité, la part de la fiction dans cette histoire-là. Elle a vu apparaître dans ce miroir des visages des personnages qu'elle a reconnus d'ailleurs et qui disparaissaient les uns après les autres.
Mon doux maître Ruggieri, j'ai besoin de vous.
Oubliez donc votre peine de cœur, madame, vous êtes une Médicis. Préparez-vous donc plutôt à votre glorieuse destinée.
Dites-moi quelle est ma destinée.
Piero, tu vas lire dans la boule de cristal.
Il y a trois hommes à cheval. Ils sont jeunes, ils ont fière allure. Et ils portent des couronnes.
Ces trois jeunes seigneurs sont vos fils. Tous trois sont appelés à régner.
Ils vous saluent tous trois, madame.
Afin de vous dire qu'ils se soumettent à votre volonté. À travers vos fils, vous gouvernerez la France.
Alors, elle n'a pas eu que trois fils, elle n'a pas eu que trois fils rois. Elle a eu 10 enfants, je crois, Michel Peyramort.
Oui, 10 enfants dont beaucoup ont disparu dès la première année, comme c'était pas la coutume, enfin, c'était très courant à l'époque. On ne faisait pas de gyozo. Enfin, même à la cour de France, on ne faisait pas de gyozo. Malgré tous les médecins qui se pressaient autour des souverains.
La plupart d'entre eux, d'ailleurs, de ses enfants, sont même morts avant elle, dans des circonstances assez tragiques. Sa vie est un peu une tragédie.
Une tragédie perpétuelle.
Ouais. Alors, elle devient reine à la mort de François Ier. Son mari devient roi. Elle devient reine en 1547. Mais alors, sous Henri II, elle ne va pas vraiment régner. Hein. La vraie reine, en quelque sorte, entre guillemets, c'est Diane de Poitiers. Cela dit, elle va jouer un rôle important à la cour de France. Elle a amené un peu la renaissance, Michel Peyramort, en France.
Je crois qu'elle a amené un air nouveau à la cour de France. D'abord, elle a fait venir des artistes de Florence, de la Toscane. Elle a amené du mobilier, qui change un petit peu du triste mobilier de François Ier. Non, triste mobilier, mais enfin, non, tout de même, pas tout à fait. Elle a amené des femmes également, des femmes qu'elle connaissait de la cour de Florence. Ce qui fait que l'ambiance de la cour de France a été changée du tout au tout, avec des fêtes. Elle adorait les fêtes, hein. C'était pas un personnage triste, Catherine de Médicis. Elle adorait les fêtes, elle adorait les artistes, elle adorait les soirées mondaines. Elle était très large d'esprit. Elle admettait très bien certaines débauches, par exemple. Enfin, pas de la part de ses enfants. Là, elle était très stricte. Mais la cour de France, la cour du Louvre, c'était vraiment une sorte de lupanar, il faut le dire.
Si mon ami verrait, elle lui dirait qu'il me dit.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Catherine de Médicis.
C'était l'ensemble Clément Jacquemin, le mois de mai. Je crois qu'elle aimait beaucoup Clément Jeannequin, Michel Peyramore, et on écoutait...
Elle aimait beaucoup la musique.
Alors, cela dit, c'est une cour qui est apparemment assez gaie, même sacrément frivole, apparemment, d'après ce que je dis. Et pourtant, sa vie a été marquée vraiment par une succession de tragédies à Catherine de Médicis. D'abord, il y a la mort de son mari en 1559. Là, c'est une mort...
Dans un tournoi, oui.
Ouais, dans un tournoi.
Alors, chose curieuse... à la suite de cet accident, le roi a survécu 2-3 jours. Il a eu la tête traversée par la lance de Montgomery. Mmh. Et donc, il a survécu 2-3 jours. Mais pour essayer de le sauver, on a amené des condamnés à mort à la cour de France, donc dans la chambre de Catherine de Médicis. Et on a traversé à vif. On a traversé la tête avec des échardes de bois pour voir leur réaction et pour voir si de cette façon on pouvait arriver à soigner le roi. Et le roi est mort, évidemment. Et les condamnés à mort également.
Alors le roi est mort, à ce moment-là c'est bien sûr son fils aîné qui est appelé à régner, qui est François II, un des fils, le fils aîné de Catherine de Médicis aussi. Cela dit, à travers tous ses enfants, c'est à partir de ce moment-là qu'elle exerce vraiment le pouvoir et qu'elle va exercer pendant 30 ans, Michel Peyramore.
Oui, elle va prendre la barre du navire et elle ne la quittera plus. Elle ne la quittera plus, avec tout de même des passages à vide. Mais ça, c'est l'histoire qui le définit. François II était une larve. C'était un personnage maladif, qui n'a pas longtemps vécu. Les portraits qu'on a de lui, d'ailleurs, sont assez symptomatiques.
Il a vécu un an, il a régné un an.
Il a régné un an, oui, puis il a disparu comme ça, comme un brouillard, comme une brume au-dessus d'une rivière. Elle n'a pas eu de chance avec ses fils, il faut dire.
Mmh. Aucun n'a eu de postérité, si bien qu'elle a eu 10 enfants.
Elle a eu une chance avec Henri III, le dernier, mais qui a fini sous le couteau d'un moine dément. Et aucune chance, aucun de ses fils ne lui a apporté vraiment la satisfaction qu'elle aurait espérée.
Et cela, donc, elle gouverne un peu à leur place, il faut bien le dire, surtout quand ils sont très jeunes. François II avait 15 ans quand il est mort. Et puis, je crois que Charles IX, son frère qui lui succède, avait à peine une dizaine d'années quand il est devenu roi sous le nom de Charles IX. Et alors, c'est grave parce que elle règne en réalité, mais à une époque tragique pour la France, c'est en plein pendant les guerres de religion, à l'apogée des guerres de religion, Michel Peyramore.
Oui, c'est là qu'intervient son rôle de médiatrice. Ce n'est pas un rôle facile, il faut dire, parce que la guerre, il n'y a pas eu de véritable guerre d'ailleurs entre les catholiques et les protestants. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de grande bataille. Il y a eu des escarmouches, il y a eu un conflit permanent, mais qui se traduisait par des escarmouches, par des coups de main, plus que par des batailles. Il n'empêche que le royaume de France était en proie à un conflit permanent qui détruisait absolument, qui était une aberration permanente.
Aggravé peut-être par la faiblesse du pouvoir, parce que
la faiblesse du pouvoir, oui,
autour du roi Charles IX,
une femme n'a pas tout de même la rigueur, l'autorité d'un homme. Donc autour d'elle s'est développée une sorte de méfiance qui a fait que les choses n'ont pas marché comme elle voulait. Et elle est arrivée donc à ce qu'on connaît bien, à la Saint-Barthélemy.
Oui, mais avant, alors, elle est tentée quand même, on y reviendra, mais elle a fait preuve d'une grande tolérance, cette femme responsable de la Saint-Barthélemy.
Elle est très tolérante.
A tenté
très tolérante,
en permanence. C'était pas du tout une fanatique religieuse. Elle était catholique, mais sans aucun fanatisme.
Elle n'a jamais été protestante. Elle est catholique. Et elle était extrêmement tolérante, donc elle tolérait les activités des protestants. Elle a fait, comme le dit le poème que vous avez récité tout à l'heure, que vous avez dit tout à l'heure, elle avait cet esprit de tolérance. Elle a édicté des lois de tolérance.
Alors dans les périodes de guerre civile, la tolérance, ça ne paye pas toujours. Elle a été
C'était vraiment toujours entre l'enclume et le marteau.
C'est-à-dire entre les catholiques et les protestants, qu'il a détesté
également. Il a recevé les coups des deux côtés.
Et il les détestait tous les deux. Je vous propose d'écouter la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Oui, de son vivant, déjà, Catherine de Médicis a beaucoup d'ennemis. D'abord, on méprise ses origines. Une Florentine et de bas lieu, dit-on d'elle et de sa famille, donc les Médicis, que la duchesse de Guise traite, je cite, de marchands qui ne sont pas dignes de se nommer nos serviteurs. Et selon un pamphlet protestant, l'Italie nous a vomi une racaille infinie que cette femme a favorisée et enrichie des trésors de la France. Alors, pour le protestant Agrippa d'Aubigné, cette étrangère est incapable, tout simplement, de gouverner la France. Considérez, dit-il, que la reine-mère est l'âme de l'État, elle qui est sans âme. Considérez quelles sont ses mœurs, sa nation, sa famille. Mais de son vivant aussi, quand même, beaucoup rendent hommage à Catherine de Médicis.
D'abord, le chroniqueur Brantôme, d'abord, il cloue le bec à tous ceux qui prétendent qu'elle était laide. Elle était, dit-il, de fort belle taille, de grande majesté, le visage beau et agréable, la gorge blanche et pleine, la charnure belle et l'embonpoint très riche.
C'était à la mode à l'époque.
Eh oui, une grosse dame, quoi. Une belle grosse dame.
Brantôme était le courtisan, il faut pas
l'oublier. Oui, mais enfin, peut-être que ça lui plaisait. Hein. Un ambassadeur italien nous la présente aussi comme une grosse dame, donc assez physique et aimant la vie. Elle recherche des exercices, dit-il, marchant beaucoup, montant à cheval, elle chasse avec le roi, son fils, le pousse dans les taillis et le suit avec une intrépidité rare. Et son appétit est énorme. Catherine de Médicis, donc, est si gourmande qu'en 1575, raconte Pierre de l'Étoile, elle meurt presque d'indigestion après avoir mangé trop de cul d'artichaut, de crêtes et de rognons de coq. Alors on est loin, hein, ici, de l'image austère de la veuve en noir qu'on voit parfois sur les tableaux. Catherine de Médicis, ajoute Brantôme, était de fort bonne compagnie et gaie humeur, aimant les exercices comme la danse où elle avait de très belles grâces et majesté. Sa compagnie et sa cour étaient un vrai paradis du monde pour tous les étrangers qui y venaient. Mais ce qui frappe bien sûr, surtout chez elle, c'est son sens politique. Son esprit, remarque l'ambassadeur de Venise, je puis vous assurer qu'il est très fin et vraiment florentin. Cette reine est fort adroite, fort prudente et fort magnanime. Elle aime à conduire les affaires et elle se plaît à faire croire que tout relève de son autorité. Le chroniqueur Pierre de l'Étoile encore affirme même, c'était elle qui faisait tout et le roi ne tournait pas un œuf qu'elle n'en fût avertie. Un autre diplomate italien est frappé lui aussi par cette autorité. En sa qualité de mère, elle tient le roi sous sa main. Elle ne le quitte jamais. En qualité de régente, elle gouverne avec un plein et absolu pouvoir, comme si elle était le roi. Elle se conduit non pas en femme, mais en homme très courageux. Et elle possède bien l'art de la dissimulation.
Alors, le roi que Catherine de Médicis tient sous sa main, Michel Peramor, qui ne tourne pas un œuf sans qu'elle en fût
avertue. J'adore cette formule.
Hein, c'est Pierre de l'Étoile. Alors, ce roi, c'est pas son mari, c'est son fils. Hein, c'est Charles IX. C'est à l'époque de Charles IX qu'elle tient vraiment les reines du pouvoir, et ce fils Charles IX, eh bien c'est lui qu'elle va pousser au plus grand massacre des protestants de la guerre de religion. C'était le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy.
Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il sait faire. Mais toutes les forces de roi incapables au service de la justice. Tu plongeras ton royaume dans la ruine quand j'ai fait tout ce que je peux pour le redresser. Toute la sale besogne depuis que ton père est mort, c'est moi. Oui, c'est moi qui l'ai faite. Moi, celle.
Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Hein? Il faut supprimer les chefs. C'est une question d'heure, ce soir, cette nuit.
Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche.
Combien faut-il en tuer ?
11.
14.
12 ! Tu es protestant ?
La qu'à se convertir !
Tu l'as entendu? Récite le credo! Récite! Non! Credo inunum Deum! Patrem omnipotentem! Récite! Non! Récite!
C'est un extrait du film de Patrick Chéreau, hein, La Reine Margot, le massacre de la Saint-Barthélemy. 3000 protestants tués dans Paris, Michel Peramor. La responsabilité de Catherine de Médicis.
Oui, je n'aime pas beaucoup le film de Chéreau, mais je dois avouer que cette scène est très réaliste et très proche de la réalité. C'est-à-dire que il était prévu effectivement de tuer pour Catherine de Médicis, c'était un geste politique tout à fait normal. Tuer quelques têtes pour sauver l'ensemble du pays, pour sauver tout le pays, c'était normal.
Mais elle était tolérante, vous l'avez dit.
Comment ?
Elle était tolérante en matière religieuse avant.
Oui, mais tolérante. Écoutez, ça fait partie de la tolérance aussi. Mais oui, c'était
massacré 3000 protestants.
Non, elle n'a pas fait massacrer 3000. C'était pour rétablir un équilibre. À un moment où les catholiques, où les protestants menaçaient Paris,
Faut rappeler
il fallait
le contexte,
réagir, il fallait réagir.
Je coupe une seconde.
Et donc,
c'était juste au lendemain du mariage, parce que là aussi, elle avait voulu réconcilier les protestants et les catholiques. Le
Navarre,
futur Henri IV, le roi de Navarre, est marié à la fille de Catherine de Médicis, la reine Margot. Et c'était juste après ce mariage, parce qu'il y a beaucoup de protestants dans Paris, donc on a peur dans Paris, c'est ce que vous voulez dire.
Elle voulait sauver l'esprit de tolérance par ce massacre, le massacre de 10 ou 12
chefs. Là, c'est difficile à comprendre, Michel Peramor. Il faut rappeler, elle dit 11, je crois qu'au début, il voulait massacrer les chefs, simplement.
C'est une enfant de Machiavel, Catherine de Médicis. Donc,
Machiavel
c'est pas un pur esprit.
Oui, n'aurait sûrement pas conseillé à faire ça. C'est quand même une tâche énorme dans sa vie.
Pas, je ne sais pas. C'est une tâche énorme. Non, attendez. Elle aurait fait massacrer simplement 10 à 12 chefs protestants.
C'est ce qui était prévu, je crois.
Ce qui aurait rétabli la paix, du moins provisoirement. Il n'y aurait pas eu Saint-Barthélemy, donc l'image de Catherine de Médicis n'aurait pas été oblitérée comme elle l'a été.
Il faut rappeler, je crois, que Paris était très catholique, entre les mains des Guises.
Il y a une bavure et
que, brusquement,
et un enchaînement.
Il y a eu la mort donc, de plusieurs chefs protestants. Dont
notamment Coligny.
Et à ce moment-là, dans Paris, tout le monde s'est déchaîné contre eux. 3000 morts, c'était effarant.
Absolument.
Hein, c'est plus qu'une bavure, hein, quand même, Michel Perramort.
Au départ, il y a eu une bavure. Une bavure avec la mort de Coligny.
Oui.
Mais la suite, ça n'est plus une bavure. Alors, c'est quand même le grand massacre, des milliers de personnes. Il y a une image hallucinante, d'ailleurs, c'est celle du portefeuille qui va collecter les enfants en bas âge, qui les met dans sa hotte et qui va les jeter dans la Seine.
Ouais, c'était affreux. On y consacrera sûrement
des images à Saint-Barthélemy.
Alors, ça, c'était 2 ans avant la mort de son fils, encore mort très jeune, Charles IX.
Hein, Charles IX qui était un fou.
Et alors, Charles IX qui va être remplacé par Henri III.
Charles IX est mort. Vive le roi Henri III.
Oh mon cœur, tu es là. Nous allons faire des grandes choses ensemble.
Je veux simplement être agréable à Dieu. Nous éteindrons la guerre. Nous éteindrons la haine.
C'était donc la mort de Charles IX, Henri III, qui vient de Pologne, il a été roi de Pologne, qui devient roi de France, Michel Perramort. Et là encore, pendant des années, jusqu'à sa mort, on est en 1574, jusqu'à la mort de Catherine de Médicis en 1589, elle va continuer à régner alors que son fils est adulte quand même.
Oui, adulte, mais un personnage léger, superficiel, qui n'a pas vraiment non plus l'étoffe d'un roi, comme ses frères d'ailleurs. Qui va régner, mais on va l'appeler en Pologne, il va partir. Comme il était très amoureux de Marie de Lorraine, ça le gêne un petit peu de partir. Il laissait derrière lui un grand amour. Mmh. Il est parti quand même. Mais il est toujours entre deux eaux, Henri III. Hein, tantôt il a l'image d'un bon roi, d'un grand roi, tantôt celle d'un prince comme ça, un peu dévoyé, un peu à cause de ses mœurs. On a dit qu'il était homosexuel, ce qui n'est pas un crime, mais qu'il avait vraiment une sorte de cruauté mentale sous-jacente comme ça, un drôle de personnage, un personnage très complexe, comme n'étaient pas ses autres frères. Ses autres frères étaient massifs, monolithiques. Lui, c'est un personnage complexe.
Et alors, mort.
Tout en sous-entendu, si vous voulez.
Il va mourir très peu de temps après sa mère. Sa mère meurt en janvier 1589. Vraiment, on peut dire que c'est encore elle qui régnait. D'ailleurs, vous le mentionnez dans votre livre, elle voyageait beaucoup. Elle a beaucoup insisté sur les voyages qu'elle faisait en France, notamment.
Elle a fait son tour de France avec Charles IX.
Puis elle l'a fait plus tard, encore sous Henri III.
Elle avait d'ailleurs des possessions un peu partout, et notamment en Limousin et en Auvergne. Elle tenait à montrer à son fils ses paysans, qui étaient ses esclaves en fait.
Ce qui est terrible, c'est que cette femme qui a eu 10 enfants, et notamment 3 rois de France, aucun d'entre eux n'avait de descendants, si bien que la couronne devait revenir à un très lointain cousin, Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui était protestant, si bien que la guerre qu'elle voulait arrêter a continué, parce que les catholiques, évidemment, étaient angoissés à l'idée de voir futur Henri IV.
Patrice, Paris vaut bien une messe.
Oui, ah oui, mais ça, c'est justement elle, c'est je crois qu'il l'a suggéré. Oui. C'est elle qui l'a suggéré à Henri IV, Michel Perramort. Elle est morte juste avant son fils, avant Henri III, quelques mois avant Henri III qui a été assassiné.
Il a été assassiné par un moine, oui.
Clément. Alors, comment se fait-il que, ça, elle est morte en 1589, comment se fait-il que pendant des années, comme ça, elle ait gardé cette réputation désastreuse, Catherine de Médicis?
Parce qu'il s'est trouvé aucun historien de l'époque assez lucide pour déceler sa véritable personnalité. Moi, je dis que c'est une grande reine. Je dis que c'est une grande reine. Je n'ai aucun sentiment équivoque par rapport à Catherine de Médicis.
Non, mais on s'en rend compte quand on
Je n'ai même pas la Saint-Barthélemy à lui reprocher. Même pas.
Oh bah quand même. Là vraiment, j'ai du mal à vous suivre.
Au départ, il y a une bavure et ensuite un dérapage.
Sacré dérapage.
Elle a voulu arrêter ce massacre. Elle n'a pas pu y arriver. La machine était en marche, elle n'a pas pu l'arrêter. Mais autrement, elle était responsable, mais pas coupable, si vous voulez.
Oui, mais ça, on a entendu une parole malheureuse de quelqu'un d'autre.
En d'autres occasions. Ah.
Merci, Michel Perramort. Écoutez, on va se quitter avec un madrigal composé par Monteverdi en 1619 et dédié à sa sérénissime dame Catherine de Médicis.
Merci.
Je rappelle donc que mon invité Michel Peyramor est l'auteur du roman de Catherine de Médicis, publié aux presses de la Cité. À lire également Vie des reines célèbres de Paul Lejeune, qui vient de paraître aux éditions du Félin, avec bien entendu un chapitre consacré à Catherine de Médicis. Vous avez pu entendre des extraits des films Diane de Poitiers de David Miller, ainsi que La Reine Margot de Patrice Chéreau, avec Virnalisi dans le rôle de Catherine de Médicis, deux films disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. Puisqu'il me reste quelques secondes, je voudrais signaler une initiative de Radio France et du Mémorial de Caen qui s'intéresse aux souvenirs des 60 000 enfants cachés qui, en France, ont été sauvés des camps de la mort entre 39 et 45. Si vous avez été dans ce cas, ou si vous êtes le sauveur, l'ami, le fils ou la fille d'un enfant menacé à cette époque, envoyez par lettre votre témoignage avant le 15 mars à l'adresse suivante: Parole d'Étoile, Radio France, pièce 1319, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Ou encore, vous pouvez envoyer votre témoignage par mail sur radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Stéphane Devernay et Edwin Caron. Documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.